Bonjour et bienvenue sur le podcast All Les Pâtes. Aujourd'hui, je reçois Camille avec qui je vais parler de nutrition canine et du bien-être du chien. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Camille.
Et bonjour, merci de me recevoir sur ce petit podcast.
De rien, j'ai très hâte de parler avec toi aujourd'hui.
C'est pareil.
Ah bah génial. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites et également tes loulous ou ton loulou si tu en as plusieurs?
Ouais, alors je suis Camille, je suis créatrice de contenu YouTube depuis 2015 et je me suis spécialisée sur l'alimentation de nos carnivores domestiques, donc chiens et chats. Et je fais donc des vidéos sur YouTube. J'ai également intervenu à quelques reprises pour faire des conférences autour du BARF, puisque on le verra dans un second temps. Mais au-delà, enfin au sein même de l'alimentation des animaux, je me suis vraiment penchée vers le BARF et spécialisée dans le BARF, qui est une alternative alimentaire. Et je m'intéresse évidemment aussi à tout ce qui touche au bien-être et à la cohabitation avec nos chiens et nos chats dans le quotidien.
D'accord, bah ça a l'air super intéressant. Comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser sur la nutrition canine?
Alors, initialement, tu vas rire, mais ce n'était pas du tout la nutrition canine, puisque je ne vivais pas avec de chien à l'époque. J'avais un chat, une petite chatte qui s'appelait Scarlett, grâce à qui j'ai démarré ma chaîne YouTube. Et je voulais tout simplement bien la nourrir, comme beaucoup, je pense, de propriétaires aujourd'hui soucieux du bien-être de leurs animaux. Je donnais tout simplement une marque de croquettes vétérinaire classique, jusqu'au jour où, complètement par hasard, je suis rentrée dans un magasin et on m'a totalement déconseillé cette marque de croquettes en me disant que c'était, contrairement à ce que je pensais, pas du tout adapté à la nutrition d'un carnivore. La personne en question m'a conseillé du coup une marque forcément qu'il vendait, une marque que je ne connaissais absolument pas, qui était très très peu connue. Donc moi je lui ai fait confiance, j'ai acheté, j'étais super contente, je rentre chez moi en mode ça y est, mon chat il va être super bien nourri, etc. Et c'est une amie qui à l'époque avait fait un bac pro élevage canin et félin et qui avait quelques notions de nutrition, qui a regardé ce paquet de croquettes et qui a dit mais tu sais, ces croquettes-là sont pas forcément mieux, regarde les premiers ingrédients, c'est des céréales. Et en fait là je suis tombée des nues et j'étais plutôt saoulée en fait. J'avais l'impression de m'être faite arnaquer et je me suis dit l'alimentation c'est quand même quelque chose de crucial pour que je puisse en fait avoir si peu de connaissances que je dois suivre les conseils et les recommandations de quelqu'un. Donc je me suis dit j'ai pas envie de me faire berner, on joue quand même avec la santé de mon chat, donc je vais me former en autodidacte et je vais me renseigner moi-même sur ce qui est bon. Et petit à petit, de fil en aiguille, quand on commence à rentrer dans ce monde-là et dans ce milieu-là, c'est une porte qu'on ouvre et qu'on ne referme pas. C'est sans fin, on ouvre plein de portes encore et encore et encore. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai acquis des connaissances et je me suis dit, c'est trop bête de les garder pour moi. Il faut les partager, il faut avertir les gens qu'aujourd'hui, il y a un réel problème de malbouffe. Et j'ai d'abord, on va dire, conseillé au travers des forums et puis ensuite, je me suis lancée plus largement sur YouTube pour pouvoir toucher une audience plus large.
Ah, génial. Mais je pense que moi, j'ai pas de chien, j'ai qu'un lapin, mais mes deux grands-parents ont des chiens, enfin un chien des deux côtés. Et c'est vrai que en regardant les compositions, je trouve que dans les animaleries, il y a quasi aucune croquette. Enfin, ça n'existe pas la croquette parfaite, mais vraiment, les compositions sont très mauvaises, hein.
Bien sûr, et j'ai vraiment vu l'évolution parce que bon, du coup, je fais ça depuis, je suis sur YouTube depuis 2015, mais je m'intéresse vraiment à la nutrition depuis 2012, et j'ai vraiment vu l'évolution quand même ces dernières années avec des marques qui essaient vraiment de tendre à mieux, de faire mieux. En 2012, c'était catastrophique. Aujourd'hui, ça commence à être un petit peu moins pire, un petit peu plus intéressant au niveau de l'offre, mais bon, il y a quand même toujours effectivement beaucoup de problèmes et de marques très mauvaises qui sont proposé un petit peu partout.
Ouais, et surtout, je pense également aux marques qui mettent, oui, au poulet, et vu le pourcentage de poulet, c'est quand même assez incroyable, parce qu'il y a vraiment, en fait, rien. Il y a vraiment énormément de céréales, et le poulet, il passe un peu à la trappe, on va dire.
Oui, c'est ça. De toute façon, il faut bien garder en tête une chose pour vulgariser, c'est que aucun fabricant de croquettes aujourd'hui n'utilise, on va dire, des morceaux dits nobles, donc des filets de poulet, par exemple, typiquement, qui sont réservés à l'alimentation humaine, hein. Aujourd'hui, les croquettes sont fabriquées avec tout ce qu'on appelle les déchets, on va dire. Maintenant, effectivement, certains déchets, certaines parties vont être de meilleure qualité chez certains fabricants et d'autres vont vraiment utiliser on va dire, avec des procédés plus que douteux, tout ce qui est plumes, des becs, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais effectivement, voilà, faut savoir que dans une croquette, on n'aura jamais un morceau noble et on n'aura jamais effectivement une qualité de protéines extraordinaire, quoi. Donc voilà, donc j'ai commencé avec le chat et puis en fait, de fil en aiguille, je me suis également intéressée aux chiens puisque j'adore les chiens et encore plus depuis que j'en ai un à la maison puisque je vis avec un berger blanc suisse aujourd'hui et voilà, forcément je me suis aussi intéressée à l'alimentation des chiens qui est au final assez peu différente. Il y a quand même quelques différences avec le chat, mais globalement ça se rejoint quand même.
D'accord. Et donc, tu peux nous rappeler un peu les bases de la nutrition canine et féline aussi par
Ouais,
occasion?
alors c'est compliqué de parler de base quand on parle de nutrition. Il y a tellement de choses à dire. Écoute, pour les chats, je te dirais une chose, c'est l'humide. Privilégier l'humide, qu'on nourrisse de façon naturelle, donc au raw feeding, je pense au barf, au pré-modèle, ou à la proie entière par exemple, ou bien si on reste sur le de l'industriel, vraiment préférer les pâtés complètes, ou si on veut vraiment donner des croquettes à côté, donner au moins tous les jours des pâtés de l'humide. Ça jouit aujourd'hui d'une très mauvaise réputation et à tort, et beaucoup de gens utilisent l'humide uniquement pour donner des friandises, en gros, en récréatif, pour faire plaisir à son chat. Mais c'est très important de le nourrir de façon humide pour hydrater les reins, puisque les croquettes aujourd'hui, c'est un mode d'alimentation qui est très très concentré, très riche, qui produit beaucoup beaucoup de déchets de par la faible qualité, on va dire, des protéines et autres matières premières. Donc on va vraiment solliciter les reins de manière récurrente, récurrente, récurrente. Et en plus de ça, on ne va pas apporter suffisamment d'hydratation pour, si tu veux, les drainer, les hydrater correctement. Donc on va fatiguer les reins et c'est aujourd'hui une des raisons principales pour lesquelles énormément de chats au-delà de 8 ans font et développent des insuffisances et des calculs rénaux. Ça doit être la base. Pour les chats, privilégier l'humide. Et pour les chiens, je dirais ne pas s'imaginer que parce que ce n'est pas un carnivore dit strict comme le chat, il a besoin absolument de pâtes et de riz dans son alimentation. C'est une énorme idée reçue. Aujourd'hui, la source d'énergie d'un chien qui est un carnivore, ce sont les lipides. Donc, on va dire, pour simplifier grossièrement, les graisses animales, si tu veux, les graisses d'origine animale. Donc, non. Pas besoin de nourrir un chien avec des pâtes, du riz ou des céréales. Ça reste avant tout des carnivores, donc ça, c'est vraiment la base. Et moi, aujourd'hui, je prône une alimentation faite maison, que ce soit ration ménagère, barf, etc. J'essaie vraiment de dire aux gens, apprenez à cuisiner pour vos animaux. N'ayez pas peur de le faire comme vous n'avez pas peur de cuisiner pour vous ou pour vos enfants. Et essayez de limiter le plus possible l'industriel. Voilà pour te donner des bases de bases de bases. Mais c'est très complexe vraiment de synthétiser et de schématiser vraiment les points.
D'accord. Oui, c'est vrai que ça a l'air assez compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour tout ce qui est le chien, ce que c'est le barf, la ration ménagère, etc.?
Bien sûr. Alors, pour commencer, c'est cuisiner pour son chien, c'est préparer l'alimentation pour son chien soi-même. Donc, c'est pas des croquettes, c'est pas du pâté. La ration ménagère, ça va être, on va dire, la base de la ration ménagère. Ça va être une gamelle qui va comporter, voilà, de la viande, des abats, des huiles ou des poissons, des compléments alimentaires, et surtout des compléments minéraux vitaminés. Donc, une poudre qui va apporter, si tu veux, les besoins en minéraux. Le barf, grossièrement, ça va être la reconstitution d'une proie. Donc, on va prendre un filet de poulet, une cuisse de poulet, des abats, soit du poisson, soit de l'huile pour apporter les acides gras essentiels, des fruits et des légumes pour les compléments, si tu veux, pour les fibres, les vitamines, etc. Et le but va être, voilà, par exemple, de reconstituer un lapin, ou un poussin, ou un poulet. En gros, une proie telle qu'un carnivore pourrait chasser dans la nature, même si aujourd'hui, bon, nos chiens sont plus vraiment des chasseurs. Après, tu as le raw feeding qui va être très proche du barf, mais en général, on va vraiment être plus dans le strict nécessaire. Donc, beaucoup de personnes ne vont pas donner forcément de fruits et de légumes. Il y a plusieurs écoles, si tu veux, dans l'alimentation et la nutrition. Beaucoup de guéguerres aussi, beaucoup de désaccords. Mais ce sont des régimes qui sont différents et qui peuvent chacun être adaptés à un animal. Voilà. Mais grossièrement, pour résumer, tous ces types d'alimentation sont bons. Il faut juste bien le préparer et bien l'adapter à son protégé.
D'accord. Et donc, par exemple, est-ce que c'est possible de passer, par exemple, des croquettes au barf, ou est-ce qu'il faut passer par un vétérinaire quand même pour faire la transition ?
Alors, malheureusement, et à mon grand, grand, grand désarroi aujourd'hui, la profession vétérinaire n'est pas formée pour conseiller les gens sur le barf, le pré-modèle ou la proie entière. On a quelques vétérinaires qui ont des connaissances en ration ménagère, mais à mon grand désarroi, malheureusement, la plupart du temps, pour eux, la ration ménagère, ça doit être forcément cuit avec du riz ou des pâtes, alors que pas du tout, pas forcément. Il y a une grosse méconnaissance aujourd'hui de la profession sur le barf et sur le fait maison. Et donc, si on souhaite passer aujourd'hui sur un type d'alimentation de type barf, ration ménagère, etc., le vétérinaire, c'est pas forcément le meilleur allié, on va dire. Il y a malheureusement des conflits d'intérêts aujourd'hui qui existent. Donc, il y a certes un manque de formation. Il y a aussi des vétérinaires forcément qui vendent des produits, des croquettes, etc. Donc, il est également là pour vendre ses produits. Donc, aujourd'hui, si on souhaite passer, parce qu'il faut effectivement faire une transition, il faut quand même se renseigner au préalable sur les bases d'une gamelle, en fonction de ce qu'on souhaite proposer. Par exemple, la ration ménagère sera peut-être plus intéressante, plus adaptée à un animal âgé, édenté, ou une race de type brachycéphale, tu sais, avec le museau très écrasé. Ce sont des races qui peuvent avoir du mal à mâcher et à broyer les os. À ce moment-là, la ration ménagère va être intéressante, puisqu'il n'y a pas d'os. Hein. On remplace les os par un complément minéral vitaminé, des coquilles d'œufs, carbonate de calcium, etc. Donc, il faut quand même renseigner soi-même en amont, mais il y a une phase de transition effectivement à faire. On ne change pas comme ça du jour au lendemain. Malheureusement, il faudra se renseigner auprès d'un vétérinaire qui s'y connaît et peut-être pas hésiter à faire un petit peu de kilomètres, faire un petit peu de bornes pour aller voir vraiment un vétérinaire qui se sera spécialisé dans la nutrition, dans ce type de nutrition, et voilà, qu'on va aller voir pour qu'il puisse nous accompagner dans ce changement.
Ok, donc aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. C'est pas très accessible par rapport aux vétérinaires, etc.
Bien sûr, malheureusement. J'espère, et aujourd'hui, un de mes gros combats, c'est que ça évolue. C'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations d'étudiants vétérinaires soient plus ouverts, souhaitent se former eux-mêmes de manière approfondie et souhaitent aller plus loin que les bouquins d'alimentation qu'ils ont bien souvent sponsorisés et faits par ces gros groupes, on va dire pet food, et cherchent à se former et à aller plus loin pour avoir de vrais conseils, on va dire, par rapport à ça. J'espère vraiment que ça va venir, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que j'ai beaucoup de gens qui me contactent, d'abonnés qui sont justement étudiants vétérinaires et qui sont vraiment passionnés par la cuisine maison, par le faire soi-même, et qui ont vraiment à cœur de plus tard de se spécialiser là-dedans pour pouvoir aider les gens à nourrir de cette façon.
Déjà, c'est quand même une petite avancée qui est quand même assez positive.
Bien sûr, bien sûr. Et il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je sais que, par exemple, je suis à Valence, à côté de chez moi. Il y a un vétérinaire qui est très ouvert au cru, aux méthodes, on va dire, aux alternatives naturelles pour soigner les animaux, etc. Il y en a de plus en plus. Que ça continue sur cette voie, vraiment. Même si aujourd'hui, ça reste quand même, malheureusement, à mon grand dam, une infime minorité.
D'accord. Et d'ailleurs, c'est du cru, c'est ça ?
Tout à fait. Ah oui, bien sûr. Je ne l'ai pas précisé, mais le principe même du barf, c'est de nourrir au cru, puisque voilà, pour préserver tout simplement la qualité nutritionnelle des nutriments. Toujours. Hein, ne jamais donner d'os cuit, toujours donner cru. Mais voilà, c'est un petit peu la base du fondement. La ration ménagère peut d'ailleurs être donnée crue, hein, contrairement aux idées populaires, c'est pas forcément du cuit. Disons que c'est dommage en fait de cuire la viande et de détruire en fait les nutriments, certains nutriments essentiels, alors que les carnivores ont tout en eux, ont une flore intestinale naturellement acide pour pouvoir détruire, on va dire, naturellement les bactéries contenues dans la viande. Ce sont des carnivores. Le chat, quand il chasse, un chat qui sort, par exemple, va chasser l'oiseau, va chasser la souris, et la plupart du temps, va le manger s'il a un petit peu faim, s'il a un petit creux. Et pourtant, à côté, ben, le chat domestique est nourri aux croquettes, etc. Mais il va pourtant manger cet oiseau, il ne va pas le faire cuire en amont.
Oui, c'est ça. Et voilà. Du coup, dans le barf, il n'y a pas de légumes, mais dans la ration ménagère, il y en a. Et si oui, est-ce que c'est bien ou toi, tu le vois plutôt comme négatif?
Alors, dans le barf, enfin, on va dire dans le barf que moi, j'ai appris, celui du docteur Billinghurst, il y a des légumes, des fruits et des légumes. Moi, je trouve, mais certains pratiquent le barf sans légumes. C'est, comme je t'ai dit, c'est compliqué. Il y a vraiment plusieurs écoles. Il y a des pour, il y a des contre. Pour moi, les légumes et les fruits sont importants. Ce sont des antioxydants, ils apportent des vitamines, ils apportent des fibres. Donc, pour moi, ça a son importance. D'autres personnes diront non, ça ne sert à rien. Parce que voilà, l'animal est un carnivore, le chien, le chat sont des carnivores, etc. Sauf que lorsqu'ils mangent des proies et qu'ils mangent, on va dire l'intérieur, le contenu de l'estomac, on retrouve quand même des petits fruits, des légumes qui ont été pré-mâchés, si tu veux, auparavant, ce qui va leur apporter des fibres. Un chien, quand il va se promener, il va manger parfois des petites baies qui traînent au sol, etc. Donc moi, je suis vraiment dans l'observation de l'animal et dans la logique. Pour moi, les fruits et légumes, aujourd'hui, ont totalement leur place et leur importance dans un régime barf, pour les raisons que je t'ai citées juste avant.
D'accord. Et du coup, est-ce que, même si c'est un peu compliqué, parce que je pense que comme chaque chien est différent, et même, je pense, chaque chat également, est-ce qu'il y a quand même un pourcentage à respecter, par exemple, de viande dans un régime barf ou ration ménagère ?
Ah oui, bien sûr. Oui, oui, y a des pourcentages à respecter. On va pas donner, on va pas nourrir un chien ou un chat avec 3 cuisses de poulet et 50 grammes de steak. Y a une base effectivement à respecter, il faut pas faire n'importe comment. Et pour ça, j'invite les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à lire certains ouvrages pour se renseigner, pour apprendre en amont comment bien équilibrer une gamelle de barf ou de ration ménagère. Il y a aujourd'hui des groupes Facebook qui existent, francophones, donc ça, c'est très très riche là-dessus. Et il y a également des livres, pour citer par exemple le livre du docteur Billinghurst, justement, Give Your Dog a Bone, ça s'appelle, sur les bases, on va dire, de l'alimentation barf, comment faire une gamelle. Il y a également le livre The Forever Dog de Karen Baker et de Rodney Habib. Et puis, il y a également le livre Toxic Croquettes de Jutta Ziegler, qui est très, très bien, qui va pas forcément parler que de barf, mais qui va être très bien, on va dire, pour s'éveiller sur les problématiques des croquettes, et pas que, hein, parce que ça parle également de vaccins, de survaccination, etc. Donc, si on souhaite se lancer dans le barf, il faut quand même se renseigner en amont pour pas faire n'importe quoi. Parce qu'une gamelle, une ration déséquilibrée peut entraîner des carences ou des excès qui vont apporter des soucis de santé à l'animal à plus ou moins long terme. Donc, faut quand même vraiment bien se renseigner. C'est pas en mode, je prends une gamelle, je fais un petit peu n'importe quoi dedans, un peu de steak, un petit toast par-ci, par-là, et c'est fini. Non. Il y a quand même effectivement des certaines connaissances à avoir et un équilibrage de gamelle à respecter.
D'accord. Et donc, la quantité, c'est comment est-ce qu'on sait qu'il faut donner autant à notre chien ou comment on fait pour la quantité ?
Bah, comme je viens de te dire, il y a des groupes Facebook qui existent, il y a des sites internet, notamment le site Barf Asso, en tout cas pour le barf. Moi, je te parle surtout de barf parce que moi, c'est ce que je connais, c'est ce que je pratique, hein, c'est ce que je connais le plus. Donc, tu as des sites internet et tu as des livres qui vont t'apprendre justement les différentes proportions à respecter. Donc, ce que tu vas apprendre, c'est les proportions de base. Comment faire une gamelle barf ? Comment faire une gamelle ration ménagère ? Et ensuite, à force de faire, sur ton animal, sur ton chien ou sur ton chat, tu vas finir par apprendre, par maîtriser et par adapter si besoin est. Tu vois, peut-être par exemple en hiver, donner des viandes un petit peu plus riches, ou au contraire en été ou si ton animal est vieillissant, donner des viandes un petit peu plus maigres, s'il a tendance à prendre un petit peu de poids. Donc, tu vas vraiment prendre la confiance, adapter les gamelles en fonction de toi, parce que, comme je t'ai dit, il y a des chiffres et des pourcentages de base. Et il faut ensuite adapter à chaque cas individuel, quoi, à ton chien, à ton chat. On va dire vraiment pour les grosses bases, tu as des sites internet, tu as des livres, tu as des groupes Facebook qui peuvent te permettre d'apprendre. Moi, j'ai réalisé des vidéos sur le barf qui donnent justement ces pourcentages, qui apprennent à faire les premiers pas dans le barf, parce que moi, c'est ce que je maîtrise. Je maîtrise moins la ration ménagère, je maîtrise pas le moins, on va dire, le pré-modèle. Mais voilà, tu as des vidéos que tu peux trouver sur YouTube, des sites, des groupes Facebook. Aujourd'hui, c'est très, très riche et c'est très bien. Parce que comme je t'ai dit, en 2012, moi, quand j'ai commencé à me renseigner, il n'y avait rien, rien du tout sur le barf, sur le nourrir soi-même. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche. Et donc, j'invite vraiment les personnes qui souhaitent s'émanciper des croquettes, du pâté, de l'industriel, à faire des recherches. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a quand même une base d'informations qui est... très bonne, très riche et très variée.
D'accord, mais j'imagine qu'avec toutes ces informations qui sont variées et assez riches, comme tu le disais, il y a aussi des fausses informations. Comment est-ce qu'on peut séparer ces fausses informations du vrai? Enfin,
bien sûr.
Faire attention, quoi.
C'est malheureusement le problème du trop d'informations. Avoir trop d'informations, on ne sait plus vers qui se tourner, etc. Il faut vérifier en fait la cohérence des propos. Il faut aussi faire preuve de logique. Il faut réfléchir. Il faut se dire, mais ça me semble complètement con. Moi, je t'ai conseillé trois bouquins de personnes qui sont extrêmement sérieuses. Le docteur Karen Baker, donc qui a écrit le livre The Forever Dog. Est quelqu'un d'extrêmement calé qui a voué sa vie au naturel, au fait de cuisiner pour son animal, etc. Tu as le docteur Jutta Ziegler, vétérinaire, pareil, autrichienne, qui s'est émancipée des croquettes, qui n'a pas de conflit d'intérêt. Même s'il me semble qu'aujourd'hui, elle vend sa propre marque de compléments alimentaires ou de choses comme ça, elle a quand même écrit son livre de manière désintéressée. Et tu as également les sites internet type Barfasso, où c'est une association, donc pareil, pas de conflit d'intérêt, ce sont des gens qui partagent de manière neutre et pour le plaisir de partager. Donc, d'accord. Il faut effectivement sélectionner, mais aujourd'hui, globalement, enfin, moi, les références que je t'ai données sont des bonnes références à suivre pour se renseigner. Maintenant, il faut effectivement faire attention à ne pas prendre du tout, non. Ça, c'est à soi après de jauger.
Oui. De toute façon, les livres et aussi le site internet Barfasso, pardon, je le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez le retrouver plus facilement.
Ouais, bien sûr.
Du coup, je voulais également te poser la question, est-ce que tu as encore envie de parler un peu de nutrition canine? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu souhaites dire, on va dire ça comme ça, ou est-ce qu'on passe à l'autre sujet?
Il y a beaucoup, enfin vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire. Moi, on peut juste, on va dire, conclure la partie nutrition là-dessus.
Okay.
J'en parle un petit peu moins sur ma chaîne ces derniers mois, ces dernières années, parce que c'est quelque chose de très très lourd, hein, vraiment comme sujet, parce que comme je t'ai dit, il y a beaucoup beaucoup de façons de nourrir. C'est un sujet qui déchaîne les passions, c'est un sujet qui déchaîne les clans, qui déchaîne les gens. Moi, je suis pas à fond pour le barf ou contre telle façon de nourrir. Pour moi, j'encourage les gens à cuisiner pour leurs animaux. Et un type d'alimentation peut être adapté à ton chien ou à ton chat, mais pas un autre type d'alimentation. Donc, il faut se renseigner sur tout ce qui existe, tout ce qui peut exister comme type de nutrition. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'arrêter les croquettes et de cuisiner pour son animal. C'est pas parce qu'un jour, ton chien, il va manger, un peu plus de foie ou un peu plus de viande que d'os, que t'as pas respecté les proportions à 100%, qui va mourir 3 jours après. Au même titre, il faut faire le parallèle avec l'humain. Nous, on passe pas notre vie à peser chaque gramme de ce qu'on mange, on passe pas notre vie à calculer la quantité de glucides, de lipides, de protéines qu'on va ingérer. Je pense pas que tu le fasses.
Non.
Tu ne le fais pas. Je pense que très peu de personnes le font. Et c'est pareil pour son animal. Oui, il faut se renseigner en amont sur ses besoins, sur les bases d'une gamelle équilibrée. Oui, il faut adapter ensuite. Mais il ne faut pas avoir cette peur de se lancer et de se dire « Mon Dieu, j'ai pas de formation en nutrition, je n'y arriverai jamais, etc. » Faut avoir confiance parce que les croquettes, contrairement à ce qu'on pense, sont très très loin d'être parfaitement équilibrées. Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de santé qui sont liés aux croquettes parce qu'aujourd'hui, c'est un mode d'alimentation qui malheureusement, quand on se renseigne un petit peu, est loin d'être adapté au régime de nos carnivores. Il y a certes des marques qui sont moins pires que d'autres. Mais moi, je veux vraiment encourager les gens à se renseigner, à faire le pas, à cuisiner pour leurs animaux comme ils cuisinent pour eux. Parce que l'alimentation, c'est un facteur essentiel d'une bonne santé. C'est presque le premier médicament, on va dire, pour rester en forme. Alors, ça ne fait pas tout. Hein. On peut très bien avoir des problèmes de santé, même en nourrissant bien son animal. Mais j'encourage vraiment les gens à se renseigner sur l'importance vraiment de cuisiner, que ce soit en ration ménagère, en barf, renseignez-vous et n'ayez pas peur de franchir le pas. Voilà, quel que soit le régime que vous choisissez.
D'accord.
Voilà.
J'avais juste une dernière question et ensuite, voilà. Que penses-tu en fait des entreprises de barf ou de rations ménagères qui te proposent la viande déjà et ensuite t'as plus qu'à la... Enfin, je sais pas si tu dois la cuisiner, mais t'as juste à la préparer pour ton animal.
Alors, je ne sais pas si mon point de vue va être objectif parce que j'ai créé en 2018, mon entreprise de barf avec quatre associés. Oui, alors j'en ai pas parlé puisqu'aujourd'hui, cette entreprise n'existe plus, voilà, pour différentes raisons, Covid, raisons, législation, enfin bref, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui hein, de se lancer dans le barf en France, puisqu'il y a aujourd'hui les législations sont faites pour les fabricants de croquettes, hein, clairement. Donc c'est très très dur, c'est très compliqué, mais j'ai moi-même proposé des repas barf sur mesure, donc moi j'encourage, je trouve ça génial, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens aussi ne veulent pas franchir ce cap parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie de se prendre le temps. Et on va se le dire, les croquettes, c'est pratique. Parce qu'on ouvre un paquet, on verse la quantité dans sa gamelle et c'est fait. Donc aujourd'hui, il y a très peu de gens qui prennent déjà le temps de cuisiner pour eux. Alors pourquoi est-ce qu'ils cuisineraient pour leurs animaux? Donc je trouve ça très bien aujourd'hui qu'il y ait ces alternatives, qu'il y ait des entreprises qui fabriquent ça, qui proposent ça pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas envie de faire eux-mêmes ou qui ont peur de faire eux-mêmes. Je trouve ça génial. Maintenant, il faut faire attention de s'assurer que les proportions sont cohérentes et respectées, que la composition est bonne. Mais à partir de là, je trouve ça bien. Je trouve D'accord. ça bien. Je vois que du positif là-dedans, qu'on propose que ça soit des barquettes de par exemple de barf broyé. Alors là, bon, avec le broyé, on peut se dire, on a peut-être foutu un petit peu tout et n'importe quoi dedans. Hein. On a peut-être récupéré un peu les déchets qu'on a passés à la broyeuse, parce que c'est simple, en fait. Hein. C'est du broyé, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que moi, je préfère le barf en morceaux. Pour moi, le principe du barf, c'est de donner du morceau. Mais pour les animaux qui sont, comme on a dit, âgés, édentés, qui ne peuvent pas, en fait, vraiment utiliser leur croc pour broyer les os, le broyé peut avoir un côté cool et un côté pratique. Mais pour moi, à ce moment-là, c'est aux fabricants d'être transparents, de montrer les procédés de fabrication, comme nous, on faisait avec Prime Instinct, on ouvrait un petit peu notre cuisine, entre guillemets, on faisait des stories, on montrait comment étaient fabriqués les produits. Donc, je trouve ça bien, mais je voudrais plus de transparence. Je veux de la transparence. Je veux qu'on montre aux gens comment est fabriquée la bouffe qu'on donne à leurs animaux. À partir de là... C'est génial. Et j'ai des gens, moi, qui me contactent. J'ai encore un monsieur qui m'a contacté il y a 2 jours, qui souhaite se lancer là-dedans, qui souhaite faire du barf, cuisiner et proposer des rations barf toutes faites pour les animaux, et qui m'a contacté pour savoir comment ça se passe, quels ont été nos freins. Donc moi, je réponds, pas de souci. Quand on me demande, maintenant, je dis à celles et ceux qui veulent se lancer, bon courage. Mais pour ceux qui sont déjà présents sur le marché, oui, allez-y, foncez. Et je trouve que c'est une très bonne initiative.
D'accord. Bon, alors du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est bien, il faut faire attention, mais ça peut vraiment aider à motiver les gens peut-être à se tourner vers le cru, enfin le barf.
Bien sûr, bah de toute façon, quitte à ce que ce soit des industriels qui le proposent, quitte à ce que ce soit un produit qu'on va acheter entre des croquettes et du barf ou de la ration ménagère, Moi, je vous dirais toujours, tournez-vous vers le barf ou la ration ménagère. De toute façon, quitte à ne pas faire vous-même, ce sera, enfin, en soi, ce sera toujours mieux à partir du moment, évidemment, où le fabricant fait pas de la merde. Mais je pars du principe que si on se lance et qu'on veut proposer du naturel, entre guillemets, de la ration ménagère ou du barf, en tout cas aujourd'hui en France, les services qui existent aujourd'hui en France, en général, ils proposent quand même des trucs bien, quoi. Ils font pas n'importe quoi.
D'accord. Donc, je pense qu'on a terminé sur la nutrition canine, même s'il y a encore plein de choses à dire. Tellement. Mais de toute façon, sinon, on pourra rediriger les personnes vers ta chaîne.
Bien sûr. Ouais, parce qu'il y a vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Si on commence à parler de ça...
Ça va durer 24 heures, même plus.
Oui, on est d'accord.
Du coup, bah, on voulait parler de la place du chien dans la société, du bien-être également. Est-ce que tu veux commencer ou...
Ça me tient tellement à cœur ce sujet, la place du chien dans la société. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'appelle « Nos chiens sont-ils vraiment heureux ?» que je vous invite à regarder, que j'invite tout le monde à regarder ou à écouter, parce que je l'ai, enfin en soi, voilà, vous pouvez faire quelque chose, cuisiner, conduire et tout, parce que c'est surtout ce que je dis qui est important. Et c'est un nouveau combat que je mène. Je te laisse commencer, poser tes questions et on développera.
D'accord.
Voilà, par la suite.
Déjà, est-ce que tu penses que, forcément, depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a eu de l'évolution ? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la place du chien dans la société, leur bien-être ?
Je pense qu'il y a de l'évolution puisque, bah, notamment grâce à Internet, les réseaux sociaux, on est plus dans le partage, la compréhension. On a envie de comprendre son chien de plus en plus. Il y a beaucoup d'éducateurs comportementalistes aujourd'hui qui font des lives, qui proposent des vidéos, qui proposent des contenus multimédia qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur la place du chien, sur la façon dont on le traite, dont on vit avec, etc. Il y a une évolution positive, le chien est considéré de plus en plus comme un membre à part entière de la famille, comme un être psychologique, comme un être différent, avec des codes différents. Je ressens une évolution positive, mais c'est clairement pas assez. Cette évolution, je la ressens auprès des gens qui sont passionnés des chiens. Quand on est passionné de chiens, on voit cette évolution. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui n'ont pas cette passion des animaux comme toi et moi ou comme celles et ceux qui nous écoutent et qui prennent un chien sans le connaître, sans savoir ce qu'est un chien. Il y a énormément de choses à faire aujourd'hui et la place du chien n'est pas totalement encore celle qu'elle devrait être.
D'accord. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que quand on est passionné, ben, on a envie de se renseigner, de faire mieux. Et encore, par exemple, on peut aider d'autres personnes à se renseigner parce que c'est pas toujours forcément facile. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des personnes, soit qui n'ont pas envie, en fait, de prendre le temps d'éduquer correctement leur chien, enfin, de prendre le temps de...
Bah, de se renseigner, dire... de se renseigner,
oui,
déjà.
Oui, voilà, de se renseigner et d'améliorer la vie de leur chien, de leur compagnon, quoi.
Bien sûr. Déjà, beaucoup de gens prennent des races de chiens sans se renseigner sur la race. Alors, certes, il y a l'individu, donc chaque chien au sein même d'une race peut-être différent avec des comportements différents, mais il y a également certaines prédispositions, parce que certaines races de chiens ont été travaillées pour quelque chose en particulier. Beaucoup trop de gens prennent des border collies ou des huskies parce que c'est mignon, en essayant de gommer sans prendre en compte en fait les particularités de cette race. Que ce sont des chiens qui vont être très speed, que ce sont des chiens qui ont besoin de courir, de se dépenser, de travailler. Et ils vont se retrouver avec un chien en disant « Mais je comprends pas, mon chien il fait de la prédation sur les joggers, sur les voitures. Mon husky, il est fugueur, il fait que se barrer. Il fait de la prédation sur d'autres chiens. » Oui, mais est-ce que tu t'es renseigné sur ton chien ? Ah bah non, mais je trouvais ça mignon. Donc ça, c'est la base, ça c'est ce qu'on voit le plus, ça c'est le plus classique. Mais ouais, au-delà de ça, beaucoup trop de chiens aujourd'hui développent des troubles du comportement. Alors ça peut être du simple trou qu'ils vont creuser dans le jardin, à la destruction du canapé, au fait qu'ils se bouffent, qu'ils se mordent, qu'ils se grattent sans arrêt. Ça peut être toutes ces choses-là. Parce qu'ils ne sont pas assez stimulés. Et c'est, je trouve, le principal problème. Et je parle même pas que de la promenade, parce qu'énormément de gens aujourd'hui ne promènent même pas leurs chiens tous les jours. Les chiens ne sont pas sortis tous les jours. Mais c'est que en plus de ça, ces chiens ne sont pas stimulés. Donc moi, je fais un parallèle avec l'humain parce que ça, ça parle en général aux gens. Imaginez-vous enfermé dans une pièce, sans internet, sans télé, sans livre, sans jeu de société, sans rien, sans rien qui puisse vous stimuler, enfermé dans une maison, à devoir attendre. Vous ouais, attendez.
C'est vrai que c'est totalement vrai. Et quand tu parles de stimulation, tu parles de jeux d'intelligence, par exemple ?
Je parle de jeux d'intelligence, je parle de répondre à leurs besoins naturels, qui est de flairer, qui est de pister, qui est d'observer, qui est de courir. Toutes ces choses-là, en fait, dont les chiens ont besoin. Il faut savoir qu'en plus, les chiens ont un odorat des millions de fois plus développé que nous. Ils sentent des choses à des kilomètres de chez eux. Ils vont sentir quelque chose sans pouvoir y aller, sans pouvoir aller voir. C'est extrêmement frustrant. Et que vous ayez un jardin ou non, ne change rien. Comme je dis tout le jour aux gens, le jardin, c'est juste l'extension de la maison. Mais une fois que votre chien il a fait le tour du jardin, une fois, deux fois, trois fois, qu'il a ses odeurs, qu'il a marqué son territoire, c'est rien. La maison, c'est une prison dorée. Et si on prend un chien, mais qu'on est absent de chez soi 8 heures par jour, et que le chien reste juste là bêtement sans avoir rien à faire, il va devenir fou, comme nous on deviendrait fou de rester enfermé toute une journée sans stimuli, sans pouvoir sortir. Alors imaginez en plus les gens qui rentrent chez eux et qui ne promènent même pas leur chien le soir. Mais il faut pas s'étonner qu'ensuite le chien détruise le canapé, fasse des trous dans le jardin, détruise les plantes, cherche à fuguer et à s'échapper. Ouais, et trop peu de personnes aujourd'hui ont cette capacité de prise de recul en disant « c'est moi le problème ». En fait, j'ai pris un chien, mais je ne lui apporte pas ce dont il a besoin. Lui, il m'apporte, c'est un gentil compagnon que je vais caresser, que je vais jouer quand j'ai envie de jouer. Mais ensuite, au bout de 5 minutes, quand j'en ai marre, j'attends de lui qu'il fasse sa vie et que ça devienne une plante verte. Trop peu de gens aujourd'hui ont cette prise de recul. Donc, on a des chiens aujourd'hui qui sont névrosés et donc des chiens qui sont abandonnés ou des éducateurs qui sont sursollicités. Alors, tant mieux pour eux, ça leur fait du boulot. Mais la première chose pour moi à faire, c'est de prendre du recul et de se dire « Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai le mode de vie pour avoir un chien ? Lui va m'apporter, mais qu'est-ce que moi, je vais lui apporter ?» Et c'est un gros problème aujourd'hui. Trop peu de gens posent cette question et trop de gens restent dans le « Je prends un chien parce que j'ai envie de prendre un chien, c'est cool. »
Ouais, c'est ça.
On va pas chercher plus loin.
Et aussi, j'avais une question. Est-ce que, par exemple, quand on promène un chien, est-ce que c'est problématique, on va dire ça comme ça, si on le promène toujours au même endroit, mais ou est-ce que c'est pas problématique parce qu'il y aura de nouvelles odeurs à chaque fois ?
Alors, c'est toujours mieux de promener un chien toujours au même endroit que de ne pas le promener du tout. Parce qu'effectivement, entre-temps, il y a des chiens qui passent, il y a des joggeurs qui passent, il y a des odeurs intéressantes qui viennent être déposées. Donc moi, par exemple, typiquement, j'ai une balade, j'ai la chance d'avoir une petite balade super chouette juste derrière chez moi. C'est là que j'amène Jackson. Hein. Le matin, quand j'ai pas vraiment le temps, on fait notre petit aller-retour, on fait notre balade. Donc tous les jours, il voit la même balade. Mais ça l'empêche que je l'observe tous les jours. Il va quand même s'arrêter, renifler, marquer son territoire par-dessus encore. Donc, ça reste une sortie. Il est quand même content de sortir. Maintenant, effectivement, s'il y a la possibilité de varier les balades, c'est encore mieux. Du coup, moi, j'ai cette balade qui est juste derrière chez moi. C'est celle que je fais quand j'ai pas le temps, clairement. Quand j'ai le temps, en fait, je me suis promenée, puis je me suis rendu compte que j'ai 3-4 chemins différents qui partent. Effectivement, c'est mieux, de temps en temps, effectivement, de changer, puisque le chien va voir des paysages différents, va voir des odeurs différentes, c'est toujours mieux. Maintenant, si vous n'avez pas cette possibilité, c'est pas grave, vous prenez le même chemin, mais essayez quand même au moins une fois par semaine, notamment en week-end quand vous avez plus le temps, de prendre votre voiture et d'aller en forêt, d'aller dans un lac, d'aller dans un endroit un petit peu plus loin, mais faire découvrir des choses à votre chien. Il en sera forcément plus heureux, d'accord. C'est sûr.
Et d'ailleurs, je pense que c'est une question basique, mais qui est importante quand même. Tu conseilles de promener combien de fois par jour et la durée à peu près ? Après, ça dépend toujours du chien, évidemment, également.
C'est ça. Le plus possible. Plus on a de temps à consacrer à son chien, mieux c'est. Alors, je dis pas qu'il faut partir après dans la surstimulation, hein, parce que le chien, comme tout le monde, il a besoin de temps de repos, il a besoin de se retrouver seul dans son coin, à se reposer, à dormir, à observer, bref, à faire sa vie. Mais plus on va comment dire, promener son chien, mieux ce sera. Il faut savoir que, enfin, on a commencé à vivre avec les chiens. À l'époque, on était des nomades, donc on se déplaçait, on s'en servait pour nous accompagner à la chasse, on s'en servait pour garder. Le chien avait un rôle bien précis, et en fait, en journée, il avait de quoi s'occuper. Mais nous, aujourd'hui, on s'est sédentarisé. Et le chien n'est devenu plus qu'un chien de complaisance, un chien de compagnie pour la plupart d'entre nous. Nous, on a continué notre activité, donc en journée, en fait, on va s'activer, on sort, on va travailler, mais le chien, il sert plus à rien. Donc, il est dans l'attente, il ne fait rien du tout, et c'est problématique. Donc, plus vous allez promener votre chien, si vous pouvez le promener 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est génial, tous les jours, c'est génial. Si vous faites des balades, alors je dis pas forcément balade où on lance des bâtons, des balles, où le chien doit courir à balles tout le long, pas du tout. On fait des balades calmes, posées, le chien il marche à son rythme, il prend ses odeurs, il fait sa vie, mais vous le sortez de la maison, donc vous le stimulez en quelque sorte,
d'accord,
vous le faites vivre. Maintenant, il y a un minimum, enfin, je vais pas parler de maximum, mais je vais parler d'un minimum. Offrez-lui au moins 20 minutes de balade au grand minimum par jour. Et en balade, si jamais vous habitez en milieu urbain et que vous êtes obligé de le promener en ville, et donc du coup avec une laisse et en laisse courte, si vous faites ça, laissez-lui le temps de s'arrêter, de prendre ses odeurs, ne tirez pas comme un malade sur la laisse. Il faut que ça soit le moment de promenade du chien et pas que ce soit votre promenade à vous. Donc, ouais, adaptez-vous à son rythme. 20 minutes au grand minimum, idéalement le matin et une autre fois le soir. Entre midi et deux, si vous n'êtes pas là chez vous en journée, trouvez le moyen soit de rentrer entre midi et deux, soit de trouver quelqu'un qui puisse rentrer entre midi et deux pour faire une petite sortie à votre chien. Le minimum. Après, ça peut arriver à tout le monde de passer une journée sans promener son chien. Moi, la première, je ne suis pas parfaite. Il m'arrive d'être malade comme un chien. Dehors, il pleut, il fait moins 10. Bon, je regarde Jackson et je lui dis, écoute, mon pote, m'en veux pas. Aujourd'hui, on sort pas. J'ai la chance d'avoir un jardin. Je le mets dans le jardin et je lui dis, écoute, on se rattrapera demain. Mais sortez-le quand même au moins 20 minutes par jour. Et si possible, au moins 2 fois par jour. Au grand minimum.
D'accord. Donc, par exemple, 20 minutes le matin et 20 minutes le soir?
Idéalement, ouais. Idéalement, ouais.
Parce que c'est vrai que... Mais là, l'exemple que tu m'as dit, quand, par exemple, t'es malade et que tu peux pas le sortir, c'est bien aussi de le dire parce que je trouve que du coup, on a tendance à vouloir être parfait, sauf qu'en fait, c'est pas possible, quoi.
Non, personne n'est parfait. Ça m'est arrivé d'engueuler mon chien. Je suis humaine. Ça m'est arrivé d'engueuler Jackson parce qu'il m'a saoulée. On va se dire les choses. Il m'arrive de temps en temps, rarement, mais de passer une journée sans le promener. Parce que, soit parce que j'ai la tête dans le boulot, soit parce que je suis malade, on est humain, ça arrive. Donc là, le but de ce podcast, c'est pas de dire aux gens, il faut que vous soyez parfait à 100%, que vous promeniez tous les jours votre chien, etc. Parce que personne n'est parfait, ça arrive à tout le monde. Voilà, hein, au même titre que quand on élève un enfant, bah des fois, voilà, on rate un truc, on a la flemme de scie. Faut pas non plus culpabiliser les gens et partir dans la politique du parfait parce qu'on ne l'est pas, personne ne l'est et c'est ok en fait de pas être parfait.
Franchement, c'est bien que tu t'en parles parce que c'est vrai que même si j'ai un podcast sur les animaux qui permet peut-être d'aider des personnes, bah, moi non plus je suis tellement pas parfaite. On s'éloigne un peu du sujet, mais je pense que c'est important de le rappeler parce que avec Elliot, j'ai commencé, il était en cage, c'était n'importe quoi et aujourd'hui il l'est plus, mais j'ai encore plein de choses à améliorer quoi. Et...
Ouais.
Mais c'est okay,
en fait, le plus important, c'est de se renseigner, c'est de se dire je veux faire mieux. Mais il faut pas, oui, non plus s'auto. Moi-même aujourd'hui, je suis extrêmement exigeante envers moi-même. Et moi, si je m'écoute, je me dis je ne suis pas faite pour vivre avec un chien. Je ne lui apporte pas suffisamment. Parce que là, je suis là, je bosse en journée. Quand je le vois en fait à côté de moi et il est là, il se fait chier, je m'en veux. Je dis, mais en fait, ta place, elle n'est pas là. Tu devrais être peut-être en train de courir derrière un troupeau de moutons, travailler, etc. Et non, en fait, t'es en maison, moi, je suis là, je bosse. Et en fait, je me culpabilise de fou. Et j'essaie de faire un travail hein, sur moi-même. Mais je suis sans arrêt en train de me culpabiliser en me disant, en fait, tu t'emmerdes. Mais bon, pour autant, je pense aujourd'hui qu'un chien sera plus heureux avec moi que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de foyers. Parce que je me suis renseignée, parce que je me renseigne, parce que je veux apprendre encore. Le plus important, c'est de vouloir. Et c'est de se dire, j'ai envie de me renseigner, j'ai envie de faire mieux. Je veux toujours améliorer et je veux surtout connaître le chien. Savoir voilà, les codes du chien. Comment est-ce que lui, il peut penser? Comment est-ce qu'il se sent en ce moment? C'est le plus important, en fait. Et quand je dis aux gens, essayez de balader au moins 20 minutes par jour, c'est parce que 20 minutes dans la vie du chien, qu'est-ce que c'est? Quand il va passer 24 heures, en gros, à rien faire, 20 minutes sur 24 heures où il peut sortir, c'est le strict minimum. Maintenant, faut faire au mieux, voilà. C'est pas grave si vous passez une journée sans le promener. C'est pas grave. Dans ces cas-là, essayez de le stimuler. Enfin, vous avez des jouets chez vous. Moi, j'adore le Kong, par exemple. Donc, je mets des friandises dans son Kong, et puis je le laisse essayer de choper les friandises. Je cache des friandises un peu partout dans la maison ou dans le jardin. J'essaie de trouver des petites choses, en fait, pour le stimuler. Comme des parents feraient avec un enfant en jeune âge qui a besoin de jouer, qui a besoin d'attention, quand on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de lui, on va essayer de lui proposer des jouets, des choses qui vont l'éveiller, qui vont le stimuler. Il faut juste essayer de faire pareil avec le chien.
D'accord. Du coup, j'avais également des questions. Est-ce que tu as quand même, en plus du Kong, est-ce que tu as des jouets que tu conseilles aux personnes, par exemple, qui nous écoutent et qui voudraient stimuler leur chien quand ils ne sont pas là ou pour les occuper, quoi?
Ouais. Alors moi, j'ai testé une fois les jouets jeux d'intelligence, tu sais, où t'as un petit plateau, tu caches des croquettes dedans, et puis en fait le chien il doit pousser avec son museau un truc, tirer un autre truc. Bon, moi ça j'ai essayé sur Jackson, c'était rigolo. J'ai essayé une fois, mais il a de suite pigé le machin, donc ça sert une fois pas deux, quoi. le problème c'est que voilà, en jeu d'intelligence, je sais que Jackson lui par exemple est assez autonome, il adore jouer avec la balle, donc en fait des fois il joue avec sa balle tout seul à la maison. Voilà, il se fait des passes, il se l'envoie, il la mâchouille et tout. Donc, si vos chiens, ils aiment ça, proposez-lui ça. C'est à vous de voir, en fait, ce que votre chien aime bien. Maintenant, il faut savoir que, c'est rare qu'un chien joue tout seul. Voilà, ou alors, il va jouer tout seul pendant 10 minutes, mais ensuite, ça va le saouler. Ce qui marche à tous les coups, par contre, pour le stimuler, c'est vraiment les friandises. Cacher des friandises un peu partout. Du coup, des friandises saines de préférence. Hein. Moi, je conseille par exemple des petits filets de viande déshydratés, tout simplement. D'accord. Cacher un peu partout, sous le lit, derrière un meuble, un truc, un machin. Et en fait, vous apprenez au chien dès son plus jeune âge, vous lui apprenez le cherche. Et en fait, il va pister, il va s'activer. Alors certes, ok, ça va peut-être durer 20 minutes, 30 minutes, une heure, mais c'est déjà mieux que rien.
Et le Kong, ça l'occupe combien de temps à peu près? Ça dépend du chien.
Ça dépend du chien. Ça dépend du chien, ça dépend ce que tu mets dedans. On peut faire une petite pâte, par exemple avec de la viande qu'on va broyer, on va remplir le Kong, on va mettre au congélateur, histoire que ça durcisse et que ça soit un petit peu plus difficile, parce que il doit décongeler un petit peu en donnant des coups de langue. Ça, c'est une petite astuce. Hein. et donc, il va passer plus de temps en fait là-dessus. Que si on met de la pâte ou si on met juste 2-3 friandises dedans, il va les choper en 2-2 et c'est fait. Ça dépend des chiens.
D'accord. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir deux chiens pour les qui soient ensemble, les occuper, ou tu penses qu'il vaut mieux qu'ils aient que des amis en balade et ensuite chez eux ils soient tout seuls?
En fait, pour moi, c'est du cas par cas. Alors, le chien, c'est un être qui est extrêmement sociable. Il peut très, très bien vivre avec des congénères, on va dire. Plus facilement que le chat, qui est un petit peu plus seul et un petit peu plus territorial. Moi, je pense qu'avoir deux chiens, c'est cool. Je pense qu'effectivement, avoir deux chiens, c'est cool, parce qu'il va à la fois avoir retrouvé ses relations interspécifique, donc avec les humains, mais également avoir des relations congénères, avec un autre animal qui est codé comme lui, etc. Maintenant, je pense pas que ça soit obligatoire non plus. T'as des chiens qui sont très bien tout seuls et qui vont pas forcément s'entendre ou qui vont pas forcément kiffer être avec d'autres chiens. Et dans ces cas-là, on les rencontre en balade, ils font des rencontres en balade. Très bien, je vois un chien, salut, c'est bon, je rentre chez moi. Je pense que ça dépend vraiment des chiens. J'ai pas vraiment d'avis dessus. Moi, je sais que d'un côté, j'aimerais bien avoir un chien pour Jackson, un copain, parce que lui adore ça, les chiens. Vraiment, il adore jouer avec les chiens. Mais d'un autre, je me dis, c'est deux fois plus de taf, c'est deux fois plus de budget pour la bouffe, etc. Je pense pas que ça soit obligatoire. Je pense vraiment que ça dépend du chien.
Et je pense également que bah voilà, ça dépend du chien. Et également, je pense que c'est bien aussi. Il faut quand même qu'il ait une cohabitation, enfin, qu'il voit d'autres chiens. Mais je pense que c'est bien aussi quand il rentre chez lui, bah, d'être tranquille tout seul et qu'il fasse aussi un peu sa vie, quoi.
Bien sûr, mais il y a certaines personnes qui proposent des services de garde de chiens à la journée. Toi, t'arrives, t'amènes ton chien, il est surstimulé parce qu'il y a des chiens de partout qui se jettent sur lui, qui jouent avec lui en permanence, etc. Ton chien, il va péter un câble au bout d'un moment. Il a besoin, effectivement, comme nous, en fait. On va en soirée, on voit des gens, on voit du monde, trucs. C'est génial, on voit des humains. Mais il y a nos moments où c'est bon. Oh, ok, on a fait du social, on a fait de la socialisation. On a vu des gens, on a fait du social. On rentre chez nous, on a envie de se poser. C'est pareil pour le chien, effectivement, il faut lui offrir des temps de repos. Là, depuis tout à l'heure, on parle de stimulation et tout, parce que aujourd'hui, voilà, les chiens occidentaux ne sont pas assez stimulés, ils passent bien trop de temps chez eux, seuls, à rien faire. C'est un vrai problème. Mais effectivement, il faut quand même qu'il ait des temps de repos. Le chien, il ne faut pas le stimuler non plus H24, et il faut qu'il ait ses moments seuls où il puisse se retrouver. C'est très important.
Oui, parce que sinon, c'est vrai que je pense qu'il est... On ne peut pas dire qu'il est heureux non plus s'il est toujours avec un...
Ah bah, sursollicité, il va...
Oui,
il...
voilà, c'est ça.
Ouais, bah disons qu'il peut, au bout d'un moment, il va faire comprendre au chien, fous-moi la paix, quoi.
Oui,
s'il est bien codé, il va lui faire comprendre avec ses codes à lui.
Et d'ailleurs, je voulais un peu savoir, avec ta relation avec Jackson, comment ça se passe? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Qu'est-ce que tu as fait peut-être pour que les relations soient plus positives et que vous soyez plus à l'écoute l'un de l'autre et qu'ils comprennent bah, que toi, tu veux pas ou... et que toi, tu comprennes que lui, veut pas?
J'aime à dire et je dis souvent que je n'ai jamais vraiment éduqué Jackson. Je développe. Déjà, il faut savoir qu'il vient d'un super élevage. Donc, ils ont fait un super taf de découverte au monde. Ils l'ont amené au marché, etc. Donc, moi, j'ai récupéré un chien déjà qui était éveillé. Quand je dis que je ne l'ai pas éduqué, c'est que je ne me suis pas mise de pression en mode « là, il faut que je fasse ci ». Là, on va sortir, je vais travailler le rappel, je vais travailler le assis, je vais travailler le coucher. Jackson ne sait pas se coucher sur demande. Je n'ai jamais appris à Jackson d'aller au panier. Tout simplement parce que ce sont des choses qui ne m'ont jamais intéressée. Je ne voulais pas d'un chien robot. Je ne voulais pas de chien robotisé. Ce que je lui ai appris, en revanche, c'est un petit peu les règles. Parce que bon, on vit quand même dans un environnement qui est façonné pour les humains. Et pour sa sécurité et pour qu'il y ait une bonne cohabitation entre lui et les humains, il y a certaines choses, effectivement, de base qu'il faut apprendre. Ne pas traverser n'importe où. Revenir, effectivement... Quand je l'appelle, donc lui apprendre le rappel, tout ça, ce sont des choses que je lui ai apprises pour sa sécurité. Mais en fait, ce sont des choses que j'ai faites naturellement. Déjà, je lui ai appris la balade sans laisse, avant même de lui apprendre à marcher en laisse, parce que c'était super important pour moi, parce que je me suis dit que de toute façon, la plupart de sa vie d'adulte, on va faire des promenades sans laisse, parce que je suis pas pour les balades attachées, en tout cas quand on a un chien qui n'a pas de problème de comportement, qui n'est pas spécialement fugueur et qui n'a pas de comportement de prédation. Je suis pour les balades libres. Donc, je lui ai appris ça en priorité. Je lui ai appris, en fait, on partait se promener, il faisait sa vie, et je lui disais « Jackson », je le rappelais. Et puis, je voyais qu'il voilà, il gardait un œil toujours sur moi. Ensuite, je lui ai appris, effectivement, les balades en laisse pour les moments où c'était nécessaire, quand on va en ville ou les trucs comme ça. Mais en fait, les choses que je lui ai apprises, ce sont des choses qui sont faites naturellement. Et en fait, on n'a pas besoin de se mettre de pression par rapport à ça. En sortant son chien et en le promenant, quand vous allez le rappeler, naturellement, il va revenir vers vous. Naturellement, il va apprendre que quand vous l'appelez, il faut qu'il revienne vers vous. Bon, je lui ai appris le assis. Bon, ça, parce que ça me faisait kiffer, je passais du temps avec lui, j'étais là, assis. Bon, on n'est pas forcément obligé de l'apprendre parce que voilà, encore une fois, le assis, le coucher... En fait, c'est des choses qui vont robotiser le chien, mais en fait, qui ne lui servent pas à lui, en fait. Et moi, j'aime apprendre, en fait, à Jackson des choses, en fait, qui vont être utiles pour lui, pour sa sécurité. Le assis et le coucher, bon, j'ai pas vu vraiment d'importance, on va dire. Donc, en fait, son évolution, le fait qu'il ait grandi, déjà, c'était un chien qui était bien codé. Et en fait, je me suis jamais mise de pression. Quand il était petit, pour les pipis, bah, je le sortais tous les 2 heures, parce que j'ai fait en sorte de prendre un chiot au moment où mon mode de vie permettait d'avoir un chiot et d'avoir un chien. Donc, je le sortais toutes les 2 heures. Je sais que la nuit, ben, forcément, il allait faire pipi parce que sa vessie n'était pas encore formée. C'était OK. Je le savais. Et comme j'étais déjà au courant, comme je m'étais renseignée en amont, ben, non seulement je ne me suis pas mise de pression, et de deux, J'ai pas engueulé Jackson parce que je savais que c'était quelque chose de normal et qu'il fallait qu'il aille à son rythme. Donc c'est pour ça que je dis que je n'ai pas éduqué mon chien. J'ai laissé faire les choses, en fait il a grandi et en fait en vivant avec moi, tout naturellement, il a compris. Et en fait quand je lui parle et que je lui dis les choses, il comprend ce que je veux. Ils sont pas stupides, les chiens sont extrêmement observateurs.
Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai.
Ils ressentent tout. On n'est pas obligé de gueuler pour leur demander quelque chose, on n'est pas obligé de les frapper pour leur demander quelque chose. Il suffit juste voilà de passer des moments avec eux et on va les comprendre et eux nous comprendront aussi. Donc moi ça s'est fait très naturellement et j'ai toujours eu une super relation avec avec Jackson, toujours.
J'ai vu qu'en plus tu avais fait un podcast là-dessus.
Oui, j'ai fait un podcast, effectivement.
Je l'avais écouté en plus.
je n'ai pas, en gros, pourquoi je n'ai pas éduqué mon chien ? C'est parce que voilà, je me suis pas, j'ai pas fait l'école du chiot. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est pareil, on est dans une ère où absolument faut faire l'école du chiot. Pour moi, l'école du chiot, ça peut avoir un avantage cool, c'est que notre chiot rencontre d'autres chiens. Et ça, par contre, c'est très important d'habituer son chiot dès son plus jeune âge à avoir des chiens de toute taille, de tout gabarit, de tout âge. L'école du chiot peut avoir un aspect cool pour ça. C'est que ton chien, tu le socialises effectivement avec les congénères pour qu'il puisse développer ses propres codes, etc. Donc ça, en ce sens, c'est bien. Mais moi, j'ai pas fait l'école du chiot parce que tous les jours, je promenais Jackson à des endroits où on croisait d'autres chiens. J'ai pas pris de cours d'éducation. J'ai pas pris de cours de dressage. En fait, je me suis renseignée en amont sur ce qu'était un chien. Et en vivant avec Jackson, tout naturellement, il a capté ce que j'attendais de lui et j'ai capté ce qu'il attendait de moi parce que c'est un échange. Encore une fois, ça doit pas être unilatéral, ça doit pas être j'apprends à mon chien à faire comme moi je veux et c'est tout. Il faut aussi que nous on s'éduque, nous humains, à répondre aux besoins de nos chiens. Ça c'est très très important. Donc
oui,
non, moi j'ai vraiment j'ai la chance d'avoir eu un chien pas je vais pas dire parfait. Parce qu'il est relou pour certains trucs. Il est relou. mais comme tous les chiens. Mais j'ai un chien qui est extrêmement équilibré. J'ai un chien qui est extrêmement codé. Alors que je n'ai rien fait particulièrement pour ça. J'ai juste, on s'est promené. On a grandi ensemble. On a partagé des choses. Et en fait, de lui-même, en fait, en grandissant, il a capté l'essence même de ce que j'attendais de lui pour sa sécurité. Et parce qu'il était dans un environnement d'humains, enfin façonné par les humains, on va dire. Il a capté tout seul en fait. Donc
je mettrai le podcast en description parce que je le trouve très intéressant pour un peu élargir tes propos, parce que c'était vraiment très très intéressant quand je l'ai écouté. C'est vrai que j'avais pas du tout cette vision, mais tu m'as encore plus ouvert l'esprit, on va dire ça comme ça.
C'est gentil, mais c'est vrai que en fait, mon but, c'est de dire aux gens, le chien n'est pas là pour vous tester, le chien n'est pas là pour vous dominer, le chien n'est pas là pour aller au-delà des limites que vous lui infligez. Le chien, c'est un être qui est très social, très intelligent, très observateur. Et de lui-même, ne vous mettez pas la pression et ne lui mettez pas la pression pour qu'il apprenne à pisser dehors et pas dedans. Ne lui mettez pas la pression pour qu'il apprenne à tout prix très rapidement à venir au pied, à s'asseoir, à se coucher, à aller dans son panier. Parce que s'il va pas dans son panier, oh mon Dieu, il va devenir dominant, il va monter sur le canapé avant vous et vous grogner dessus si vous montez sur son canapé. Ne vous mettez pas la pression. Vous pouvez lui donner à manger avant que vous mangiez. Il y a énormément d'idées reçues qui sont très archaïques. On ne sait pas pourquoi elles ont popé. On ne sait pas d'où elles ont popé. On ne sait pas d'où elles sont venues, ces idées du chien qui doit manger absolument après nous, qui doit passer, rentrer dans une pièce après nous, etc. Tout ça, ce sont des idées reçues. Soyez cool. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre chien. Lui, il est là, en fait, pour vivre sa meilleure vie, c'est tout. Il vit dans votre famille. Il kiffe la vie de famille. Et du moment que vous le nourrissez, que vous êtes cool avec lui et tout, ça va bien se passer. Vraiment, ça va bien se passer. Il faut juste, se renseigner sur ce qu'est un chien auparavant pour éviter d'avoir des surprises.
Oui, totalement. Je pense qu'on a terminé. On va passer aux questions de fin.
Ouais.
Déjà, qu'est-ce que les animaux t'apportent dans ta vie de tous les jours ?
Je suis une amoureuse des animaux. Je suis née avec une sensibilité. Je suis le genre de fille qui va pleurer dans un film pour un animal et pas forcément pour un humain. Mais un film avec un chien, un chat qui meurt, tu me perds. littéralement. Je suis ce genre de personne. Depuis toute petite, j'ai cette sensibilité. À l'âge de 11 ans déjà, je passais mes samedis à la SPA. J'étais bénévole à la SPA. J'étais toute petite, mais ça me tenait à cœur. Et j'ai toujours eu une sensibilité. Il m'apporte, de la joie, en fait, tout simplement. Ça me fait du bien d'avoir des animaux. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que je reprendrai des animaux quand j'aurai perdu, Jackson ? La douleur de les perdre est atroce. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'au quotidien, ils me rendent heureux. Après, je suis vraiment très sensible, trop sensible peut-être par rapport à ça. Mais ça me fait du bien. J'aime les animaux et j'aime tous les animaux. Aujourd'hui, je mange plus de viande. Et je suis celle qui adore regarder des vidéos d'animaux à la con, que ce soit de pingouins, de paresseux, de trucs. Voilà, tu veux me faire plaisir, tu m'envoies des vidéos d'animaux. Je les aime et au-delà même de les aimer, je les respecte. Et ça, c'est très important parce que beaucoup de gens aiment les animaux sans forcément les respecter. Ça veut dire respecter ce qu'ils sont, respecter leur code, respecter comme ils sont. Voilà, savoir qu'un chien et un chat, c'est pas une peluche, c'est pas un petit truc mignon. Ça reste un animal avec des codes à lui qui peut réagir d'une manière qu'on ne comprend pas, qu'on ne décrit pas, qu'on n'arrivera jamais à décrire. Et ça, c'est super important aussi. Faut les aimer, mais au-delà de ça, faut les respecter.
Oui, totalement. Du coup, deux dernières questions. Est-ce que tu as une lecture ou un documentaire à conseiller aux personnes qui nous écoutent en rapport avec la nutrition canine, avec le bien-être du chien dans la société, peu importe?
Reportage pour la nutrition canine, un petit peu en surface, mais très très bien pour montrer un petit peu aux gens le lobby pet food et ce qui se passe derrière l'alimentation industrielle. Le reportage « Quelle croquette pour nos bêtes ?» sur France 5. Excellent reportage pour mettre un pied dedans et se dire « Ah ouais, d'accord, c'est comme ça que ça se passe. C'est avec ça qu'on nourrit nos animaux tous les jours. » Donc voilà, d'accord. Reportage, alimentation, quelle croquette pour nos bêtes sur France 5. Au niveau des lectures, si vous aimez lire, il y a du coup l'ouvrage « Toxique croquette » de Jutta Ziegler qui a été le premier livre que j'ai lu, qui est très très bien et qui parle justement de nutrition, des conflits d'intérêts vétérinaires, de la survaccination, parce que ça c'est un autre sujet aussi, et d'alimentation. Très bon livre également. Et puis ensuite, il y a les deux livres dont je t'ai cité, « Forever Dog » qui est très très bien, mais plus pour le barf. « Give your dog a bone », pareil, très bien pour le barf. Je te les donnerai et puis tu les mettras en description.
Oui, sinon je chercherai, t'inquiète pas.
Voilà. Et pour l'éducation, un très très bon site, parce que moi j'adore la vision qu'ils ont du chien et je partage à 10 000% la vision qu'ils ont du chien, c'est le site Cynopolis, C-Y-Nopolis, qui est très très bien, donc pour apprendre à vivre avec son chien, pour savoir ce qu'est un chien réellement et pour se remettre en question. Parce que ce site-là, cette personne écrit des articles qui nous mettent littéralement une gifle dans la gueule. Hein. Clairement, hein, ça nous met une gifle dans la gueule. Donc le site Cynopolis pour tout ce qui a trait à l'éducation et à la cohabitation avec nos chiens aujourd'hui.
D'accord, parfait. Et du coup, où rediriger les personnes qui nous écoutent ?
Ma chaîne YouTube, hein, déjà, dans un premier temps, ça fait un peu promo, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos sur l'alimentation, la nutrition, et j'ai fait également quelques vidéos de réflexion sur la place du chien, la cohabitation avec les chiens, y compris les chats, hein, j'ai fait une vidéo sur les chats, est-ce que nos chats sont-ils vraiment indépendants ? Parce qu'on a beaucoup parlé de chiens sur la deuxième partie, mais moi, sur ma chaîne YouTube, j'aborde aussi beaucoup les chats.
Oui, c'est vrai.
Ensuite, il y a il y a des sites internet pour tout ce qui est soins au naturel. Il y a le site Vis Medicatrix Naturae qui est très bien parce que je prône aussi les soins naturels. Site internet, page Facebook ou compte Instagram, il y a celui du coup du docteur Karen Baker qui est très bien pour tout ce qui est soins naturels et alimentation naturelle. Et comme je disais, il y a le site Barfaso. Pour tout ce qui est pareil, alimentation, c'est un site internet et une association. Et enfin, il y a, on a de la chance aujourd'hui, des groupes Facebook qui sont très bien francophones, que ce soit pour la ration ménagère, pour les soins naturels, pour l'alimentation barf, pour les croquettes aussi, aider les gens dans le choix des croquettes. Notamment un groupe que j'avais fondé qui s'appelle SOS Croquettes, que j'avais co-créé. Aujourd'hui, je n'y suis plus par manque de temps, mais qui est très très bien. Groupe Facebook aussi. Voilà.
D'accord, beaucoup, parfait.
Beaucoup d'éléments, tu vois, aujourd'hui à notre disposition, beaucoup plus qu'à l'époque quand je me suis lancée. Donc, vraiment que les gens n'hésitent pas à aller faire un tour et à se renseigner par eux-mêmes, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est, en France, on a quand même beaucoup de choses maintenant.
Oui, c'est totalement vrai. Mais écoute, je te remercie pour ta présence. J'ai appris plein de choses et j'espère que les auditeurs et auditrices, auront appris également plein de choses.
Ben, je te remercie de m'avoir donné ce temps de parole. Moi, j'aime toujours autant parler de ça. Je suis passionnée par ça, je pense que ça s'entend. Et,
oui.
et voilà, il y a des choses qu'on ne répète vraiment jamais assez. Donc, c'était vraiment cool d'avoir ce petit échange sur ce sujet qui me passionne et sur cette thématique qui nous passionne toutes les deux, puisque je pense que tu es aussi une amoureuse des animaux.
Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup.
Merci à vous et ben, merci. J'espère que ce podcast te plaira. Une très, très bonne journée et... À bientôt.
À bientôt. Merci aux personnes qui ont été jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite à la prochaine. Au revoir.